Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
Les DIRCOM nous ont confié après confinement,
Cindy Bétan, Cision France,
que leur direction générale leur avait demandé d'axer véritablement leur communication sur l'engagement que ces marques prenaient.
Plus de transparence, de proximité, de production durable, de bien-être, d'égalité, les attentes des consommateurs vis-à-vis des marques ont évolué et la crise sanitaire a renforcé ce sentiment. Les entreprises prennent conscience qu'elles sont de plus en plus évaluées sur leur impact environnemental, leurs valeurs, leur éthique. En se préoccupant de leur environnement, des femmes et hommes de la planète, elles conservent leurs meilleurs talents, augmentent la fidélité de leurs clients et attirent des prospects. C'est l'ère du marketing de l'engagement. À l'occasion de la sortie de la dernière étude de Cision intitulée « Marketing de l'engagement, nouvelle stratégie de marque ou réelle transformation de l'entreprise », une invitée dans cet épisode, Cindy Bétan, directrice du marketing et de la communication de Cision France. Bonjour Cindy, avant de rentrer dans les principaux enseignements de cette nouvelle étude, est-ce que tu peux nous rappeler dans quelles conditions et dans quel contexte elle s'est déroulée ?
Bonjour PPC. En fait, cette étude, elle a été lancée, ou en tout cas réfléchie, dès le début d'année 2020. C'est-à-dire qu'on s'est mis ensemble le salon e-marketing Paris, qui devait avoir lieu en avril et puis qui finalement a été annulé pour cette année. Je reviendrai pas sur le pourquoi, j'imagine que tout le monde s'en doute. Et aussi en partenariat avec le Club des annonceurs, qui est un club qui réunit de grands DIRCOM pour réfléchir à l'avenir de la profession. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait lancer pour justement parler aux DIRCOM du futur de leur métier ? Et l'engagement est devenu naturellement sur la table. Donc, en janvier, on a commencé à lancer une étude auprès des DIRCOM et des DIR Marketing sur l'engagement des marques, comment ils voyaient la chose, où ils en étaient.
Donc, vous avez lancé l'étude en janvier. C'était avant la phase de confinement.
On a relancé le sondage auprès des personnes qu'on avait interrogées. Donc, plus de 400 DIRCOM et DIR Marketing en France. On leur a redemandé leur avis après confinement, pour voir justement s'il y avait eu un impact de ce confinement sur les stratégies de communication, sur la façon de voir les choses par les DIRCOM et les DIR Marketing. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un avant-après confinement.
Donc vous avez fait deux prises, ça c'est super, donc deux prises de température. Bon, une fois qu'on a parlé de la façon dont vous l'avez fait, on en tire quoi ? C'est quoi les principaux enseignements de cette étude sur l'engagement ? Elles en sont où les entreprises sur la question de l'engagement, de ce fameux marketing d'engagement ?
Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'engagement des marques est quelque chose de plébiscité par les professionnels du marketing et de la communication. Tu le verras au cours de ce podcast, l'étude est blindée de pourcentages, de chiffres. Mais en gros, il y a 90% des professionnels du marketing et de la communication qui estiment qu'une marque doit aujourd'hui porter des engagements sociétaux ou environnementaux.
90%, c'est ça ?
90%, oui. Et il y en a même 80% qui estiment que c'est carrément une question de survie pour la marque. Donc, on voit bien que cette réflexion de marque engagée, c'est vraiment quelque chose qui est prégnant au sein de ce métier. Et les entreprises y pensent énormément.
Qu'est-ce qu'ils mettent derrière le terme « c'est une question de survie » ?
Tu sais, quand ils disent « c'est une question de survie », je pense qu'ils ont raison, parce qu'il faut savoir que les marques meurent. Jacques Séguéla a fait une interview sur e-marketing.fr il y a pas longtemps, et il nous disait 80% des marques du XXe siècle ont disparu. Et 80% des marques du XXIe siècle connaîtront le même sort, a priori, il n'y a pas de raison. Une marque, c'est quelque chose pour survivre. C'est quelque chose qu'il faut entretenir, qu'il faut nourrir, qu'il faut réfléchir. Effectivement, aujourd'hui, la question du sens, de l'engagement, de ce que représente la marque, c'est une question à laquelle les DIRCOM réfléchissent beaucoup, parce que pour eux, c'est peut-être ça qui va faire survivre leur marque par rapport à celle de leur concurrent.
Cette pandémie, cette phase un peu dure, enfin dure d'ailleurs, de confinement qu'on a vécu, puis la crise continue, quel a été son impact sur les programmes d'engagement et est-ce qu'il y a des actions concrètes que tu peux souligner?
On va parler avant, après confinement. De toute façon, la crise, la pandémie, on est toujours en plein dedans. Le confinement a eu un effet accélérateur de cette tendance. Après, est-ce que c'est vraiment un changement en profondeur ou est-ce que c'est plutôt de l'opportunisme? Ça, on le verra dans le futur, mais ce qui est vrai, c'est que les DIRCOM nous ont confié après confinement que leur direction générale leur avait demandé d'axer véritablement leur communication sur l'engagement que ces marques prenaient durant cette période de confinement et durant la crise. C'est quelque chose qui devient vraiment profond, vraiment prégnant au niveau des programmes d'engagement. Donc, il faut quand même savoir que avant le confinement, il y a près de la moitié des tiers marketing DIRCOM qui nous disaient qu'ils avaient déjà mis en place des actions pour que leur marque soit plus engagée. Après confinement, il y a carrément, je crois que c'est 30% des marques qui avaient déjà agi qui nous ont dit que ces engagements devenaient une priorité pour leur entreprise. On a vraiment affaire là à une tendance de fond. Les marques cherchent leur sens. Cherchent finalement leur raison d'être, pourquoi elles sont là, à quoi elles servent, et puis quel rôle elles ont finalement dans notre société.
Est-ce que dans votre étude, vous avez trouvé des caractéristiques ou des engagements prioritaires qui sont portés par les entreprises interrogées?
Quand on a demandé finalement aujourd'hui quelles étaient les actions qu'ils avaient mis en place, pratiquement toutes les entreprises nous disaient qu'elles avaient mis en place des actions internes pour de bonnes pratiques environnementales au sein de leur entreprise. Donc, c'est-à-dire faire le tri, par exemple, en ce qui concerne les déchets au sein de leur entreprise. Finalement, ça, on peut pas dire que c'était très profond et que ça touchait véritablement au business de l'entreprise. Après confinement, la priorité de l'entreprise, donc s'il fallait garder qu'un seul engagement, donc il y en avait plusieurs, hein, il y avait les bonnes pratiques internes, il y avait l'égalité homme-femme, l'inclusion, tout un tas d'engagements. Mais celui qui a fait un gros boom après confinement, c'est les achats et la production responsable. C'est-à-dire que si on en croit cette étude, il semblerait que les actions d'engagement des sociétés soit beaucoup plus profond et aille toucher jusqu'au fonctionnement de l'entreprise. Qui sont mes fournisseurs? Où est-ce que j'achète? Où est-ce que je produis? Comment sont faits mes produits? Donc là, j'ai l'impression que l'engagement passe de quelque chose un peu superficiel, hein, parce que finalement, diminuer le papier, faire le tri, recycler les piles usagées, c'est finalement des bonnes pratiques citoyennes qu'on a, nous, dans notre quotidien et qui arrivent dans l'entreprise. Après confinement, on se rend bien compte que les entreprises regardent plus précisément, mais finalement, comment tourne leur entreprise et où est-ce qu'elle pourrait faire mieux en termes d'achat, en termes de production. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui devient plus profond.
Tu me dis, il y a grosso modo 4-5 familles, c'est ça, l'égalité homme-femme, la promotion de la diversité, de l'inclusion, les bonnes pratiques environnementales, bien aider les salariés, et puis le boom sur achat, production responsable et durable. Mais toutes ces boîtes, finalement, elles s'engagent à peu près sur la même chose, non?
Alors, c'est un petit peu ce qui est ressorti de l'étude. Les boîtes semblent effectivement toutes aller vers le responsable et vers le durable. Il y a deux façons hein, de lire les choses. La première, c'est quand même qu'il faut bien voir que c'est une tendance de fond dans notre pays et dans le monde entier. Il n'y a qu'à voir les dernières élections municipales. Il y a eu une vague verte, hein, on gagnait ça. Donc forcément, ça arrive vers les entreprises. Mais achat production responsable, ça a gagné 20 points par rapport à l'avant-confinement. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que c'est au détriment d'autres combats qui sont très importants aussi, notamment l'égalité homme-femme, qui n'est presque plus citée quand on parle d'engagement prioritaire ou quand on va vers l'inclusion, la diversité, quand on va vers l'homme, le bien-être des salariés. Les boîtes sont toutes passées vers le durable et vers le responsable. Alors c'est très bien, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Mais attention parce que il faut peut-être pas confondre tendance et puis nouvelle façon de vivre et nouvelle façon de voir les choses, ce qui est très bien d'ailleurs quand on va vers plus d'écologie, mais ne pas confondre avec pourquoi l'entreprise s'engage, quelle est sa raison d'être et pourquoi est-ce que c'est cohérent qu'elles aillent là-dessus. Le risque, comme tu disais, c'est que les sociétés fassent toute la même chose et communiquent toutes sur la même chose. C'est un petit peu ce qu'on voit en ce moment. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué à la télé, mais tout le monde est Made in France, tout le monde est responsable, tout le monde fait attention à travailler en local pour aider l'agriculteur du coin. À un moment donné, il s'agirait peut-être de revenir aussi aux fondamentaux, de savoir quelle est ma différenciation, pourquoi est-ce que je vais là-dessus, qu'est-ce qui me rend légitime. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion hein, sur tout ça et que là, peut-être le choc de ce qui nous est arrivé, et il y a quoi, nous a fait peut-être aller tête baissée vers tous la même chose, au lieu de réfléchir à, ok, quelle société je suis, quelle entreprise je veux être, que représente ma marque, à qui elle s'adresse, du coup, vers quoi je veux m'engager, je veux aller.
Le marketing d'engagement, pour toi, c'est juste une tendance ou tu penses que c'est un changement extrêmement profond pour tous ces spécialistes du marketing et de la communication?
Le marketing de l'engagement doit être quelque chose de profond, de toute façon, si on veut qu'il ait des effets positifs. Le consommateur ne sera pas dupe et saura bien si justement on est en train de parler que de marketing de l'engagement ou est-ce qu'on est en train de parler de marque engagée et d'entreprise engagée.
Tu peux nous donner quelques exemples, hein, on va faire un peu de name dropping. Et c'est quoi les boîtes qui s'engagent vraiment d'après toi? Allez.
Voilà, je peux te donner quelques exemples, mais c'est quand même une tendance de fond pour revenir à ta première question, parce que c'est pas nouveau, c'est quand même soutenu par la loi, hein, puisqu'il y a la loi Pacte qui est quand même arrivée l'année dernière en 2019 pour que les entreprises puissent mettre dans leur statut ce caractère de marque engagée. C'est quand même quelque chose de profond. Tu veux des exemples de marques engagées, c'est-à-dire des marques qui finalement se servent de cette raison d'être et donc de l'engagement qui va derrière comme d'une boussole et de quelque chose qui va orienter leur choix stratégique. On peut citer Danone, on peut citer Nike, on peut citer Carrefour, ont vraiment fait à un moment donné des choix courageux qui orientent le business de leur entreprise. Danone, par exemple, a décidé de vendre sa partie biscuit. Parce qu'à un moment donné, quand on peut être l'acteur de la santé, et bah, bye bye, gâteau, pito, tuc, et je ne sais quoi. Carrefour, qui veut être l'acteur de la transition alimentaire, annonce récemment qu'il va abandonner toute la partie non alimentaire, en tout cas les trucs type gros électroménagers ou bijouterie ou photos ou ce genre de choses. Donc il y a des vrais choix stratégiques qui sont issus de ces engagements-là. Là, c'est une marque engagée. Après, quand il s'agit de marketing, d'engagement, vraiment en surface, en disant on a donné un peu d'argent à telle association parce que nous, on veut que telle population puisse accéder à l'entreprise. Enfin, là, si à un moment donné, c'est pas suivi de faits concrets, si on se bat pour l'égalité homme-femme et que dans ce qu'on peut dire, il y a 90% d'hommes, on a tout de suite un problème. Et le manque de cohérence, de toute façon, entre les actions de l'entreprise et son marketing seront tout de suite vus par les consommateurs et seront tout de suite mis justement en exergue sur les réseaux sociaux. Et là, c'est bashing garanti. D'ailleurs, je pense que tu vas me poser la question, alors je vais te devancer. L'étude montre aussi qu'un des freins au marketing de l'engagement pour les marketeurs, c'est le bashing. Parce que ils veulent bien faire des campagnes, mais il faut qu'ils soient sûrs que de leur côté, bah, ils soient clean et cohérents. Parce que sinon, ils savent que ça va être complètement contre-productif.
Donc l'engagement, ça demande plus de devoir que de droit, en fait, hein, c'est ça?
Et ben, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer dans sa porte avant, avant de pouvoir lancer de beaux messages. Et quand bien même on essaye de faire les choses bien, c'est là où le consommateur est vraiment très dur, parce que je pense qu'il faut aussi accepter que les marques y aillent pas à pas. Soient pas complètement irréprochables, mais il faut déjà arriver quand même à saluer l'effort et donner le temps au temps. On change pas une entreprise de bout en bout comme ça, parce que une marque engagée, ça imprègne tous les départements de l'entreprise. ça va imprégner les achats, mais ça va imprégner le recrutement, la façon dont on voit ses employés, dont on les traite. Donc c'est quelque chose qui est vraiment profond et on ne peut pas le décréter du jour au lendemain. Il faut aussi accepter qu'il y a encore des failles et l'entreprise doit communiquer sur le fait que oui, on s'est engagé, on y arrivera, mais il y a encore du chemin à parcourir. Je pense que le consommateur peut entendre ça, mais il faut que les entreprises restent un petit peu humbles aussi et soient transparentes sur ce qu'elles veulent faire et puis sur le reste du chemin à parcourir. Et c'est comme ça qu'on arrive à vraiment avoir une vraie proximité, une vraie transparence, une vraie authenticité avec ses relations consommateurs.
Alors, est-ce que tout ce travail de fond sur l'engagement, on le voit, hein, ça se décrète pas du jour au lendemain, c'est pas juste un affichage, il faut le faire pour de vrai. Est-ce que ça permet de gagner en influence? Tu nous parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, tu nous parlais tout à l'heure des consommateurs, des clients. L'engagement, ça permet de gagner en influence?
Oui. Encore une fois, si c'est bien fait, oui, ça permet de gagner en influence. D'ailleurs, d'après l'étude, encore une fois, hein, je me base sur ces résultats de ces personnes interrogées. Ils sont plus de 81% à penser qu'un marketing de l'engagement augmente les performances marketing. On a vraiment affaire là à une vraie stratégie marketing qui permet d'augmenter l'influence. La question, c'est quelle influence et auprès de qui? Ce qu'ils nous disent d'abord, c'est que ça permet d'augmenter l'influence auprès des collaborateurs. Donc, en interne, c'est eux qui vont être le plus impactés et qui vont être le plus influencés par la stratégie d'engagement de la société. Et c'est normal, parce que c'est les premiers touchés. D'ailleurs, il faut que ça passe par là, parce que un engagement de société, ça se décrète pas et ça s'impose pas en externe. Ça se vit et ça transpire en interne. Donc, l'influence, elle va partir déjà de l'interne. Et ensuite, tout ça pourra aller vers l'externe, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi auprès des clients. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer petit à petit une véritable stratégie d'engagement. Et c'est évident que quand on s'engage, et ben, on passe, on engage plus ses publics. C'est comme ça que ça marche, hein. Donc oui, ça peut être un véritable atout dans sa stratégie d'influence. Mais encore une fois, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit bien fait. Sinon, ça va engager sur les réseaux sociaux, mais pas nécessairement de la bonne façon.
Donc les premiers influenceurs à convaincre, ce sont les collaborateurs, c'est ça?
Ce sont les collaborateurs. Et d'ailleurs, les répondants de l'étude nous disent que la meilleure tactique pour promouvoir une stratégie d'engagement, c'est l'employé advocacy. Ça part vraiment de là, c'est comment je fais vivre ça en interne, comment chaque personne de l'entreprise garde toujours en tête quelle est la raison d'être et l'engagement de l'entreprise pour que à chacune de ses décisions, ils se disent mais est-ce qu'on est bien en phase avec ce que l'entreprise est et ce que l'entreprise peut être, ou est-ce que là, je suis pas tout à fait dans les clous. On part de l'interne, ça arrive à l'externe. De toute façon, le contraire ne fonctionnera pas.
Donc, par rapport à ce que tu nous disais sur le fait que cette étude constate qu'il y a un boom du marketing, de l'engagement, on peut prévoir qu'il y aurait un boom de l'employé advocacy dans la foulée?
Alors, je pense, oui. Je pense que ça, c'est inéluctable. Si on veut vraiment travailler son marketing de l'engagement et le rendre authentique, il faut que ce soit diffusé par les gens en interne, les gens les plus proches de la société. Donc, la direction en premier lieu, les employés, les clients, enfin, tous ceux qui ont vraiment eu affaire en direct avec la société, puisqu'il faut qu'on s'assure. Le marketing de l'engagement, c'est le marketing de la preuve, hein. On peut pas dire je suis une entreprise engagée et pas donner des preuves derrière. Ce marketing de la preuve, il va passer par diffuser ce message et le faire relayer par les personnes les plus proches de l'entreprise, par les programmes d'employés advocacy. C'est là où on touche à comment marketing et RH vont travailler ensemble.
C'est la nouvelle paire, hein, c'est ça. Il y avait le marketing et les commerciaux, et maintenant on revient.
Alors c'est exactement d'accord. Ça. Je pense qu'il y a eu l'ère où comment on arrive à bien travailler son marketing avec le service commercial, en mode comment on génère un maximum de business. Et là, on est plus sur un plan comment on fait bien travailler ensemble les RH et la communication pour justement diffuser les valeurs de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise et les engagements pris par l'entreprise.
Il y a un nouveau rôle des marketeurs dans ce contexte de marketing d'engagement, c'est aussi d'embarquer et d'accompagner la RH dans ses stratégies de marque employeur notamment.
Les entreprises ont mis en place des programmes d'engagement où ils disent en majorité qu'ils sont pilotés par le service marketing et communication. Mais pour une part non négligeable de ces entreprises, c'est piloté par les RH. Et puis, il y a encore une part qui touche les 20%, hein, donc une entreprise sur 5 qui est allée sur ce terrain-là, qui a carrément une cellule dédiée. Donc, une cellule, finalement, qui serait transverse et qui pourrait toucher tous les services de l'entreprise. Alors, toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre ça, forcément. Mais nul doute que cette cellule dédiée est composée de gens de la com, de gens du marketing, de gens des RH, pour justement que tout ça soit bien mis en œuvre. Parce que la mise en œuvre est compliquée hein, ensuite dans l'entreprise. Et quand on demande aux marketeurs interrogés est-ce que ça a changé leur métier, ils sont énormément à nous dire oui, bien sûr que oui, ça a changé complètement notre métier, et notamment parce que notre métier est devenu beaucoup plus transverse.
Et ces professionnels du marketing, ils sont bien armés pour conduire ces stratégies de marque engagée ou...
Je vais te répondre oui et non. Pourquoi oui ? Ce qui ressort de l'étude, c'est qu'ils ont quand même des atouts pour conduire cette stratégie. Ils estiment qu'ils ont de très bonnes relations interservices. C'est-à-dire que ça fait partie, le marketing, de ces services qui discutent bien avec l'ensemble des autres services de l'entreprise. Et ça, c'est très, très important pour l'engagement de marque. Parce que il faut aller parler au RH, à la direction, à la production, au service client, il faut savoir parler à tous les domaines de l'entreprise. Donc ça, c'est un réel atout. Le problème fondamental, et ça, c'est une bataille chez Cision qu'on mène depuis des années et qu'on n'arrêtera pas de mener manifestement, c'est ce manque de légitimité. C'est-à-dire que pas loin de la moitié des responsables marketing comme interrogés disent qu'il manque de légitimité pour conduire cet engagement. Parce qu'on a bien vu qu'un engagement, c'était quelque chose de profond, c'était quelque chose qui changeait la façon d'agir de l'entreprise, la façon de produire, la stratégie de l'entreprise, les gammes qu'on gardait, qu'on enlevait, pouvoir prendre ses décisions. Il faut quand même avoir de la légitimité pour pouvoir imposer ses engagements et dire au directeur de la finance « Attends, je vais te parler de quelque chose qui s'appelle l'engagement. Il faut que tu m'écoutes. Il faut que tu prennes une heure, toi et toute ton équipe, pour que vous compreniez vers où on va. » Il faut avoir quand même une certaine légitimité, parce que sinon, je pense qu'on est tous d'accord que dans les sociétés, je prends la finance parce que c'est l'exemple le plus flagrant, ils ont rarement une heure à donner à ce genre de réflexion parce que c'est quelque chose qui les intéresse pas, ils sont plus dans le concret en général. Pour ça, il faut quand même arriver à avoir assez de force et puis surtout, il faut avoir l'écoute de la direction.
Le sujet de la légitimité de mon patron de marketing, c'est lié au fait que la direction générale ne leur a pas donné un mandat explicite pour traiter ça ?
Le manque de légitimité des marketeurs et des communicants vient effectivement de ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas nécessairement formellement dans leur rôle, vous êtes en charge de promouvoir la raison d'être de la société et l'engagement de la marque auprès des services en interne. Ça, c'est une première raison. Mais la deuxième raison, c'est quelque chose qui est beaucoup plus historique et qu'on essaye de renverser chez Cision. C'est un métier qui a pas assez souvent sa place dans les hautes sphères de la société, dans les codir, dans les comex. C'est une profession qui est souvent mise au second plan. C'est rarement stratégique. Le commerce est stratégique, la production est stratégique, la finance est stratégique. Quand on en vient à de la com et du marketing, c'est dans trop d'entreprises souvent secondaires. Donc c'est là où l'entreprise doit comprendre que on ne peut pas se passer d'un DIRCOM haut placé dans les sphères de l'entreprise avec une légitimité forte pour bien faire prendre conscience à l'entreprise que c'est un sujet majeur. Et d'ailleurs, l'implication de la direction générale dans ces sujets de l'engagement est juste indispensable. C'est juste carrément le facteur clé de succès pour que une société engagée fonctionne et que ça prenne vraiment au sein de l'entreprise.
Justement, dans l'étude, qu'est-ce que vous avez remarqué concernant les marques les plus engagées ? Qu'est-ce qui caractérise ces marques ?
Je peux te donner déjà, on a fait un top 20 dans l'étude, alors je ne vais pas toutes vous les citer. Par exemple, dans le top 3, on a Patagonia, Danone, Carrefour. Donc ça, c'est le top 3. Et puis après, on a des marques comme Nature et Découverte, Innocent, La Maïf. Bah, si on prend toutes ces marques, il y a une chose qui est certaine, c'est que ces marques engagées, ça a été insufflé en premier lieu par le PDG. C'est le PDG qui a dit, nous allons là-dessus, notre société, c'est celle-là, Patagonia, par exemple, depuis sa création, le créateur de la société a dit, Patagonia, c'est une société qui produit des vêtements avec le moins d'empreintes carbone possible et qui dure le plus longtemps possible. C'était ça la raison d'être de Patagonia. Il faut vraiment que la direction soit impliquée au quotidien. La Maïf, monsieur Demurger, c'est le premier porte-parole de la mission de la Maïf. Il a écrit un livre récemment. Moi, je l'ai vu dans au moins 3-4 conférences. Il y est tout le temps et c'est lui qui donne le là. Il faut que ça parte d'en haut parce qu'on a trop tendance à considérer sinon que c'est encore... c'est ces histoires de communication, c'est pas très important, c'est la com ou le marketing qui divague un peu, on bat les pieds sur terre ou ce genre de choses. Le point commun de toutes ces entreprises engagées, c'est l'implication de la direction.
Est-ce que tu peux me donner les trois caractéristiques de ces marques très engagées ?
Vision long terme, une raison d'être, mais clairement identifiée. Est-ce qu'on a vraiment réfléchi à qui on était ? La troisième, ce serait encore une fois l'implication de la direction.
Cet épisode touche presque à sa fin. Je voudrais que tu me donnes en mode punchline. Comment tu résumerais les enseignements de cette étude ?
Les résultats donnent vraiment envie d'y croire. C'est-à-dire que quand on lit l'étude, on se dit « mais c'est formidable, demain les entreprises vont agir pour l'écologie, vont rendre le monde meilleur, vont toutes s'engager dans des causes très louables ». Donc on peut avoir cette vision-là en lisant l'étude. Attention, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Je pense qu'on mélange engagement, on mélange raison d'être, on mélange solidarité et effort de guerre. Voilà, on a mis tout ça dans une espèce de mixeur et puis que finalement, il y a beaucoup trop de boîtes qui se croient engagées alors qu'elles ne le sont pas vraiment. J'ai un petit peu peur qu'il y ait un décalage entre ce que veulent les communicants et les marketeurs et la réalité du monde d'aujourd'hui. Là, on va toucher plus à des questions économiques. Hein. Est-ce que c'est bien raisonnable de parler d'engagement alors que la raison économique va peut-être l'emporter au moment clé de l'acte d'achat. C'est qu'on va vivre dans un monde un petit peu compliqué, avec beaucoup de chômage. Est-ce que vraiment tous les consommateurs veulent une marque engagée ou veulent tout simplement une marque avec un bon produit au bon prix qui correspond. Donc, je pense qu'il va quand même falloir revenir à la réalité, qu'il va falloir revenir sur qui est ma cible et quelle est ma valeur ajoutée sur cette cible pour s'engager au bon niveau. Ça pour moi, c'est très important. Je voudrais juste citer un exemple. Je voudrais prendre le cas Amazon parce que je pense qu'on adore taper sur Amazon. Donc, j'aimerais bien un petit peu ne pas les défendre parce que je ne vais pas défendre le côté non éthique ou le côté je paye pas mes impôts ou je traite mal mes employés. Mais à un moment donné, ils ont quelque part un bouclier pour être armés contre tout le bashing et tout ce qu'on peut dire contre eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vraiment réfléchi à qui ils étaient et quelle était leur raison d'être. C'est-à-dire que eux, depuis que Jeff Bezos a construit cette société, l'important, c'est le client. Au passage, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais dès le début, dans les comités de direction, il y avait toujours une chaise vide qui représentait le client. Donc, chaque décision prise, c'était mais est-ce que monsieur le client serait content ? Et c'est pour ça que Amazon, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont l'offre la plus large du marché, au meilleur prix et livrée le plus rapidement possible. Donc après, on peut leur reprocher ce qu'on veut, mais la valeur ajoutée, elle est là. Et ils savent très bien où ils vont. Je pense que c'est vraiment important. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais j'adore cette phrase. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
Cet épisode vous a plu ? Vous avez envie d'aller plus loin pour mieux comprendre l'influence digitale ? Voici 4 choses toutes simples que vous pouvez faire. D'abord, vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Ensuite, partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux. C'est facile et c'est prévu dans votre application de podcast. Juste après, parlez-en autour de vous, auprès de personnes que vous appréciez, lors d'une discussion, mais aussi autour de la machine à café, autour d'un repas ou un apéro. Enfin, si vous êtes sur iTunes, laissez un chouette commentaire et 5 étoiles, oui 5 étoiles, pour encourager l'artiste. Merci par avance pour votre soutien. À très vite.